tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont.
Bonjour ou bonsoir, mais surtout bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve Collectif. Un épisode que j'attendais impatiemment pour deux raisons principales. Premièrement, parce que pour m'accompagner ce soir, plutôt aujourd'hui, il y a un ami de longue date, de très longue date, mon plus vieil ami pour dire la vérité, qui s'appelle Mathieu. Quel prénom formidable.
Ah oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est un prénom digne des plus grands personnes de ce monde.
Et la deuxième raison pour laquelle j'attendais cet épisode avec impatience, c'est parce qu'on va parler d'un thème qui nous intéresse tous les deux, Mathieu, qui est l'écologie. Alors, on ne sait pas vraiment quelle direction vont prendre cet épisode.
Mais en tout cas, ce qui est certain... Tous les épisodes, on ne sait pas réellement quelle direction ça va prendre.
On ne sait jamais quelle direction ça va prendre. C'est ça le charme, tu comprends, c'est spontané. Et donc on va parler d'écologie parce que c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Alors on a quelques petites idées de thèmes à prendre, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce que je peux vous garantir tout de suite, c'est que ne lâchez pas cet épisode parce qu'il va être intéressant, vous allez apprendre des choses. Parce que nous, bien sûr, on a fait des longues études sur le sujet,
s'est
documenté à fond, on est très calé, de ouf. Vous ne trouverez pas de meilleurs experts que deux porteurs du bac, c'est tout. C'est le seul diplôme qu'on a. Hein. Mais croyez-moi, ça va être intéressant. D'ailleurs, Mathieu, nous ne sommes pas seuls, il me semble, hein, puisqu'il y a, il y a également trois chats avec nous.
Plus que deux, il y en a un qui est parti, mais il y en a un qui est sur moi. Donc il y a de grandes chances qu'on entende des miaulements tout au long de cet épisode.
Il y a de grandes chances qu'il participe au débat, et moi, ça me régale personnellement.
Ouais, non,
d'ailleurs, si vous voulez compter le nombre de miaulements, faites-le et puis ensuite vous gagnerez un stylo. Je m'en assurerai personnellement.
C'est merveilleux.
Et oui, et tu vois, on donne des cadeaux à nos abonnés.
Je me prends. En parlant d'abonnés, il y en a beaucoup, non ?
Il y en a beaucoup. En fait, je sais pas comment ils comptent les abonnés sur ce truc bizarre, mais j'en ai 91, c'est marqué, apparemment.
Oh là là. Je crois que je fais partie de vos abonnés, mais je suis pas sûr, parce que j'ai jamais
plutôt intérêt, Mathieu. Abonné ou quoi. Il y a plutôt intérêt, Mathieu, sinon on va se fâcher.
très bien.
Bref, on va arrêter de se mettre des coups de pression, et on va directement, écoute, je te propose d'ouvrir un petit peu ce sujet formidable, qui est l'écologie. Alors, en fait, la direction qu'on veut prendre, alors en fait, pour teaser un petit peu l'épisode sur mon compte, j'ai demandé... J'ai dit que j'allais défendre la vision, une vision qui est très peu défendue, enfin en tout cas qui est même pas trop défendue, c'est-à-dire la vision de la conquête spatiale pour l'écologie, dans le sens où moi je pense que l'écologie est liée à la conquête spatiale, et je pense que c'est ça l'avenir en fait, je pense, tu vois. Et ça a des avantages que je pense peu de personnes connaissent. Il y a aussi des inconvénients, bien sûr, et on va en discuter. Mais toi, en tout cas, tu es plutôt défenseur de... C'est-à-dire de... Enfin, moi, j'avais dit la décroissance, mais toi, c'est plutôt...
C'est pas forcément la décroissance. Enfin, ça peut aussi être un des remèdes, mais c'est plus... changer un peu notre vision, notre mode de production et tout, avant de partir aller sur d'autres planètes pour chercher différentes choses. Il faudrait d'abord qu'on arrive à soigner la nôtre.
D'accord. Donc en gros, toi, ce que tu dis, c'est que avant de s'aventurer au-delà de nos frontières terrestres, il faut d'abord soigner notre monde, c'est ça ? Et ensuite.
C'est exactement ça.
Et moi personnellement, ce que j'essaye de dire, c'est que soigner notre monde va passer par, tu vois, s'étendre, tu comprends. Mais je vais t'expliquer. Mais déjà, est-ce que t'as des idées, toi, par exemple ? Parce qu'on s'en fout, tu vois, on est là juste pour partager notre vision et nos théories, même si elles sont folles, on s'en bat les couilles. Genre, regarde, moi je parle de partir dans l'espace, c'est pas très rationnel. Mais finalement, quand on parle de défis écologiques, je pense qu'aucune solution n'est rationnelle parce que c'est un défi humainement qu'on n'a jamais rencontré, d'une ampleur telle que forcément la solution sera d'ampleur équivalente. C'est-à-dire que si on demande, là on demande à l'humanité quand même de régler un problème qui affecte le monde entier littéralement, tu vois, et qui menace l'entièreté de notre espèce et même des autres espèces. Donc finalement, moi je pense que déjà, je pense que c'est déjà un premier terrain d'accord sur lequel qu'on peut trouver, c'est qu'il n'y a pas de solution tranquille. Il n'y a pas de. Par exemple, c'est pas en laissant faire la magie du marché que ça va changer les choses, on est d'accord ou pas?
Ah oui, là on est 100% d'accord là-dessus, hein, ça c'est sûr.
Donc on
Mais
est d'accord
ce que
qu'il
tu as dit,
faut.
c'est intéressant, c'est que on n'a jamais connu un défi qui a vraiment qui concerne tout être vivant de cette
Ouais.
planète, que ce soit notamment les humains comme les animaux. Enfin, eux, c'est pas un défi pour eux, puisqu'ils peuvent absolument rien faire. Mais je veux dire, par exemple, on a connu des guerres mondiales, on en a connu deux, en l'occurrence, mais ça n'a jamais concerné chaque être vivant de la Terre, alors que là, bah, obligatoirement, si, ça concerne tout le monde.
Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que à la fois c'est un problème qui concerne tout le monde et donc forcément c'est menaçant, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, tu vois, il n'y a pas de conflit d'intérêts par exemple avec l'écologie. Moi je trouve que c'est ça la grande force. C'est de. Enfin,
Oui,
il y a
enfin,
des
il y en a quand
conflits
même
d'intérêts
qui
intérieurs.
ne croient pas du tout à ça, hein, le changement climatique et tout. T'en as qui disent
Oh,
que c'est des
après,
foutaises,
il y
là.
en a qui vont dire que la couleur rouge c'est la couleur bleue, tu vois, mais enfin, je veux dire globalement. Globalement, je veux dire, peut-être qu'ils n'y croient pas, que certains n'y croient pas, enfin, ils sont climato-sceptiques, ou j'en sais rien, tu vois. Après, je veux dire, ça, c'est par rapport au changement climatique déjà. Et le changement climatique, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Il y a aussi la pollution des océans, ça, il y a peu de personnes qui vont le nier parce que c'est tellement tangible que tu peux pas nier le fait que les océans sont pollués. Il y a aussi la question de l'agriculture, tu vois, enfin. C'est pas seulement le réchauffement climatique, l'écologie, tu vois.
Oui.
Et donc quand tu prends en tout cas le problème dans sa globalité, il y a peu de personnes, vraiment, je pense que si t'arrives à en trouver un, c'est fantastique, qui va te dire, alors non, le monde va très bien, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas les industries ne polluent pas, et les viandes ne... Enfin, la consommation de viande ne pollue pas, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Personne va nier en bloc tous les problèmes écologiques. Auquel est confronté notre monde, tu vois.
Ça, c'est sûr,
On est
mais
d'accord.
parallèlement, t'as plein de... enfin, tout le monde justement dit qu'il faut agir, tout le monde dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on ne peut plus laisser comme ça, mais ça revient un peu sur ce que vous disiez au dernier épisode, c'est que on parle beaucoup, mais en fait, on n'agit pas beaucoup surtout.
C'est ça, mais en fait, c'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas beaucoup? Et ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dans le dernier podcast, normalement, si tout va bien, qui est donc pas encore sorti à l'heure où je te parle. Donc forcément, toi, tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de te dire. Mais c'est que malheureusement, et ça, c'est, je pense, un des plus gros défauts de l'humanité, c'est que l'humain ne réalise le danger que quand il est imminent, dans le sens où que quand il est tangible, en fait. Quand
Bah,
il l'a en face
totalement.
de lui. Tu vois ce que je veux dire?
Bah oui, j'approuve totalement. Parce que regarde, l'écologie, en vrai, c'est pas nouveau, hein, le mouvement qui naît, enfin qui dit qu'il faut défendre la nature, les animaux et tout ça. Ça existait déjà depuis longtemps, déjà dans les années 70. Sauf que ces derniers temps, ces dernières années, ça a pris énormément d'ampleur parce que justement, beaucoup de scientifiques ont prévu que ça allait pas juste toucher les animaux, puisque ceux qui, dans les années 70, ils étaient là, ils voulaient absolument protéger la nature, les animaux. Mais là, on dit que ça peut aussi affecter les humains. Et donc, c'est seulement pour ça que ça commence à devenir une ampleur incroyable. Quand on nous dit, ouais, la sixième extinction de masse, le
Ouais.
niveau des océans, ça va monter, ça va détruire des villes, tous ces genres de choses, mais ça fait peur du coup. C'est seulement à partir du moment où que les humains se sont réellement réveillés que c'est pour ça que du coup, dans notre société, il y a une grande, l'écologie a une place très importante.
C'est ça. Et en fait, je pense que le problème de la crise écologique, et en réalité, c'est même pas une crise écologique, moi, je pense, tu vois. Parce que le terme. C'est pas comme si c'était le problème d'un domaine particulier. La crise écologique, en vrai, c'est une crise de l'humain, c'est une crise de l'humanité, parce que ça, c'est même plus une question de sauver la biodiversité, comme tu dis, c'est une question de survie à ce niveau-là. C'est une question de, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on sait très bien qu'on fonce dans le mur, tu comprends? Et donc, pourquoi est-ce qu'on change rien? Je pense parce que, déjà, c'est un problème qu'on a créé nous-mêmes. Tu vois, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas une menace externe déjà. Et en fait, c'est quelque chose En fait, on a construit un système entier. Le système économique sur lequel, enfin, qu'on utilise actuellement, il s'est construit petit à petit. et par la magie du marché, j'ai envie de te dire. Et en fait, la magie du marché, elle prend pas en compte ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire la pollution, par exemple, etc. Et en fait, on a construit ce système sans penser aux conséquences. Et du coup, ce qui fait que, une fois qu'on avait commencé à le construire, c'était trop tard, tu vois, pour le repenser. Donc, du coup, on a continué à développer ce système-là sans prendre en compte, même sans le savoir au début, que ça aurait des conséquences négatives. Et donc, finalement, on s'est retrouvé dans une situation où on a tout un système qui marche bien, sauf que ça risque de potentiellement tous nous tuer, en fait. Donc, on est arrivé à ce moment-là où, en fait, c'est trop tard pour. Enfin, personnellement, moi, je pense que c'est un peu trop tard pour changer de système tout entier de manière mondiale. Et du coup, on est dans une situation où, quelque part, je pense qu'on fait un peu l'autruche, tu vois. C'est pour ça qu'on fait rien, vraiment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie action. Tout est tellement construit de telle manière à ce que la pollution et tous les problèmes écologiques découlent de ce système qu'en fait, on se dit, mais on ne peut pas changer de système, c'est trop tard. Hein. Tout est construit comme ça, on ne peut pas tout déconstruire. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ignore le problème un petit peu, tu penses, tu vois. On essaye de l'oublier.
Je suis d'accord sur une grande partie, mais je pense pas qu'on fasse l'autruche parce que c'est trop tard, mais tout simplement parce qu'on n'a pas envie de changer. Genre, c'est pas qu'il est trop tard, puisque de nombreux scientifiques encore disent qu'on peut encore sauver notre planète et tout. C'est juste qu'on n'a pas forcément. On a envie de changer, de faire en sorte que notre planète soit plus vivable et tout, mais on ne veut pas changer nos habitudes et du coup, nos habitudes, ça fait partie notamment le marché, le capitalisme et tout, la production. On est dans une société de consommation où justement, on n'a jamais autant consommé qu'aujourd'hui, tu vois. Et je pense pas que ce soit notamment dû au fait que du coup, il soit trop tard pour changer les choses, mais simplement parce qu'on n'a pas envie de changer les choses, enfin, une grande partie en tout cas, des élites notamment, puisqu'on veut. On veut garder cette notion de capitalisme avec la valeur économique qui fait qu'on s'enrichit et tout, quitte à mettre différentes valeurs de côté et faire en sorte qu'on essaie de pas les oublier, mais de les rendre moins importantes.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi pour le fait que sur le papier, c'est possible. Et tout le monde est d'accord pour dire que si tout le monde changeait ses habitudes de consommation, bien sûr que ce serait une solution idéale. Mais la question, c'est, comme tu dis, les individus sont égoïstes. Et quand ils ont quelque chose qui provient directement de ce système, qui est merveilleux parce qu'il nous permet d'avoir plein de choses à disposition, c'est la croissance, je veux dire, voilà, c'est, t'as toujours plus de choix, toujours plus de. Et du coup, ça te pousse toujours à plus consommer. Et finalement, moi, je pense que les individus sont égoïstes et ils préfèrent garder leur confort parce que, en fait, ils réagissent, enfin, tout le monde réagit à court terme, en réalité. Et tu préfères, souvent, tu vas préférer privilégier ton confort sur le court terme, quitte à risquer. D'avoir très peu de confort sur le long terme. C'est-à-dire, beaucoup plus tard, tu vas payer les conséquences. Et moi, je pense que les gens, enfin, personnellement, je crois pas du tout à ce que le monde, peut-être certains individus, mais je pense pas du tout que le monde, dans sa globalité, de son libre arbitre, comme par magie, décide de réguler sa consommation et de prendre conscience du problème, alors que le problème, il est là et tout le monde le sait. Moi, je pense pas que ça arrivera comme ça, tu vois. Je pense que. Ouais. Et alors, peut-être qu'il faudrait les forcer. Mais si tu les forces, ça pose d'un seul coup beaucoup plus de. Enfin, de nouveaux problèmes, de conflits internes, externes. Et finalement, tu. Et dans un contexte où notre monde est très dangereux parce qu'il y a des armes qui sont dévastatrices, tu peux te demander finalement, est-ce que t'as pas plus de chances de détruire le monde en choisissant cette option plutôt que de le sauver?
Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Mais par exemple, quand tu dis imposer, je pense pas non plus en fait, il faudrait que l'écologie, et plus particulièrement du coup la protection de la nature, des animaux et tout ça devienne une norme en fait. Parce que on a plein de choses qui sont obligées, mais qu'on accepte parce que ce sont des normes. Dire bonjour, je dis bonjour, en fait, je suis obligé de le dire en quelque sorte. Enfin, je vais pas. Enfin, ce serait très mal vu de ma part, par exemple, de ne pas dire bonjour parce que c'est une norme, justement. Et si on arrivait à mettre en sorte, mais du coup, c'est obligé, mais sans réellement s'en rendre compte, de faire en sorte que l'écologie devienne une norme, et bien là, à ce moment-là, je pense qu'on arriverait à faire de grandes choses.
Ça, c'est super intéressant et je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où, en fait, ce qui manque à l'écologie, c'est un effet de mode, je trouve. C'est-à-dire que, pourquoi, en fait, il faut que les gens, au-delà de faire ce qui est bien, il faut que les intérêts des gens soient vertueux. Et là, notre système capitaliste fait en sorte que, souvent, les intérêts des gens ne sont pas du tout vertueux. Par exemple, tu vas mettre des Nike parce que c'est la mode. Tu vois, c'est cool de mettre des Nike. Mais le problème, c'est que ça pollue et ça exploite des travailleurs, etc. Et du coup, c'est pas vertueux. Mais si on faisait en sorte, je sais pas, je sais pas quelle stratégie de marketing globale, mais si on faisait en sorte que les produits à la mode étaient vertueux, ça voudrait dire que ce qui motive les gens, c'est-à-dire leur égoïsme, tu vois, leur petit confort et chercher l'effet de mode, aurait une conséquence positive sur l'environnement. Tu vois, réussir à renverser le processus à son avantage, à l'avantage de la planète. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire en sorte que ce soit une norme. Et c'est pas une norme. Et le problème, c'est que même au-delà de ça, c'est même. Je trouve que les activistes écologiques, souvent,
Sont très mal vus.
ils sont pas très bien vus, tu vois.
Ah
Bah,
non, non, non.
par exemple, et j'en avais parlé, il me semble, je sais pas si j'avais mentionné, mais les gens qui vont bloquer des Apple Store ou les gens qui vont, je sais pas, faire des marches,
Bah on les
et
qualifie
qui
tout de
vont
suite de
laisser.
bobos
Voilà,
et
on
de
va les mettre dans des
hippies.
cases. Et au final, c'est ça le truc, c'est que on rend pas ça cool. C'est con, mais en vrai, si tu veux que quelque chose marche, il faut que ce soit cool. Regarde, c'est ça le business, tu vois. C'est faire en sorte que les gens, ça devienne un effet de mode pour eux et qu'ils soient impliqués dedans. Et là, le problème, c'est que plus que toute autre chose, ça crée un clivage. Il y a d'un côté les gens qui sont écologiques, tu vois, les gens qui. Et eux, ils sont tellement à fond dans leur combat qu'ils vont critiquer énormément les gens qui sont pas avec eux, tu vois. Et
Ouais.
donc forcément, par réciprocité, ces deux camps-là vont un peu se chamailler, enfin, ils vont pas s'aimer, quoi. Et ça, c'est mortel si tu essayes de démocratiser le plus possible cette pensée et de lui donner un effet de mode. Mais après, la question, c'est comment donner un effet de mode, comment normer le comportement vertueux, tu vois. Comment faire en sorte que. Bah ça c'est toute une question, après
Moi,
c'est
je
un peu
pense que
compliqué mais.
l'un des moyens les plus efficaces justement pour faire en sorte que ça devienne une habitude dans notre société, ça doit venir de la politique, hein. Je pense que toutes les mauvaises, enfin toutes les entreprises comme Nike ou n'importe laquelle, qui justement s'en foutent totalement des déchets qu'ils produisent, de la pollution et tout, il faudrait qu'ils soient structurés par des lois, des règles bien écrites et qu'elles encourent de grandes sanctions, que ce soit économiques ou autres, si justement elle n'écoute pas ça, enfin si elle ne respecte pas plutôt. Et du coup, à partir du moment où déjà les entreprises vont changer leurs moyens de production, et ben, à partir de ce moment-là, ben, ça va le changement des. Enfin, les personnes vont elles aussi changer, forcément parce qu'elles pourront plus forcément prendre des habits ou quelconque objet qui pollue trop, mais aussi parce que du coup, vu que ça émanera de quelque chose qui pour nous, la politique, c'est quelque chose de très puissant, enfin de très important, et bien du coup, ça peu à peu, ça s'installera dans notre société.
Bah pour le coup, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la politique, si ça pouvait faire des changements concrets, ça l'aurait déjà fait et surtout on a déjà essayé. Le problème c'est que dans un monde globalisé, peut-être qu'avant ça fonctionnait les politiques nationales, mais moi je pense qu'aujourd'hui les politiques nationales ça marche plus du tout parce que surtout, enfin, qui est-ce qui pollue principalement? C'est les multinationales. Donc déjà dans leur nom, tu comprends que c'est pas une politique nationale qui va leur faire changer leur mode de production. Mais parce que, en fait, si un pays met des contraintes trop importantes, bah, ils vont aller dans un autre pays pour produire, tu vois. C'est
Oui, mais
toujours
justement,
comme
c'est
ça que ça
ça. Il
s'est
faudrait
passé.
qu'on arrive tous, on en revient à ce truc où on dit que chaque humain est concerné. Il faudrait que, je sais que c'est totalement utopiste, hein, mais il faudrait qu'on arrive à créer une sorte d'organisation intergouvernementale qui fasse que, justement, il y ait des règles bien précises sur comment produire et comment ne pas produire, justement.
C'est fou parce que c'est pas quelque chose dont j'ai parlé, et t'es arrivé à la même conclusion que moi. C'est-à-dire que, mais c'est incroyable, là je suis vraiment, et ça me fait penser qu'on a le même mode de réflexion.
je sais pas si ça va être très intéressant du coup à écouter ce débat,
Mais
puisque toi
si,
et moi
mais
on
si.
s'aligne sur de
Franchement,
mêmes
là,
choses
moi,
donc
je trouve que c'est très intéressant parce que quand tu mènes cette réflexion, petit à petit, tu te diriges inévitablement vers cette conclusion-là. C'est-à-dire que ça me semble évident, et ça va te sembler évident à toi aussi, que la seule manière de trouver une solution durable, ça va passer par la collaboration du monde, en fait. C'est
Ah oui, mais totalement,
une
totalement.
organisation mondiale, une instance avec des pouvoirs qui dépassent ceux des pouvoirs nationaux. Alors, pas non plus surpuissants, parce que bien sûr, il faut qu'ils gardent leur souveraineté, parce que sinon, personne n'accepterait une telle organisation. Mais en tout cas, sur l'aspect environnemental, parce que c'est un problème mondial, il faut forcément, forcément prendre une approche mondiale. Et ça, c'est pas seulement pour la régulation de la production, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord dessus. La décroissance, par exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la décroissance, globalement, c'est mettre un terme à la croissance, même provoquer une récession, c'est-à-dire ne, en fait,
Produire moins déjà.
voilà, c'est ça, produire moins, consommer de manière beaucoup plus responsable, en fait, la logique, c'est la croissance pollue, donc il faut décroître pour beaucoup moins polluer et ensuite retourner à des modes de production beaucoup plus, enfin, beaucoup moins polluants et beaucoup plus traditionnels, par exemple. Et en fait, la seule manière pour la décroissance de marché, c'est uniquement si elle s'applique au monde entier. Parce que, bien sûr, si un pays fait de la décroissance, tu comprends bien qu'il va se faire ensevelir par la concurrence,
Et
et que
qu'il
ce
va
pays
faire faillite, il
sera
va y avoir des
ruiné, que
crises.
ça va créer des exodes massifs. Enfin, ça ne fonctionne pas la décroissance à l'échelle d'une nation, ça ne peut que fonctionner à l'échelle du monde. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Le principal théoricien de la décroissance, qui est Aurélien Barreau, si vous, enfin, vous avez sûrement déjà entendu parler d'Aurélien Barreau, c'est celui qui a écrit Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui est un classique. Et si vous vous intéressez à l'écologie, vous devriez le lire, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur la décroissance. Mais lui-même dit qu'il faut absolument que ce soit le monde entier qui prenne cette direction. Et la question, c'est est-ce que c'est possible de faire en sorte que le monde entier prenne cette direction? Enfin, moi, je pense pas. Et je pense que même une organisation mondiale ne pourrait pas forcer les entreprises. Par contre, une organisation mondiale pourrait en effet mettre des normes, des normes de production, etc., qui pourraient permettre En fait, parce que les entreprises, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'elles sont plus puissantes que les États. Mais en réalité, elles sont plus puissantes que les États parce qu'elles ont cet avantage de pouvoir se déplacer d'un État à un autre. Mais si tous les États avaient les mêmes normes et les mêmes contraintes, etc., eh ben, ça couperait l'herbe sous le pied des entreprises qui pourraient plus se déplacer et qui du coup seraient forcées d'accepter les normes mondiales en fait. Et c'est ça l'objectif qu'il faudrait peut-être vers lequel il faudrait peut-être tendre, c'est d'instaurer voilà un terrain, enfin une base commune à tous et des règles qui sont mondiales en fait. C'est même plus des règles internationales, c'est des règles mondiales.
Mais moi, je suis un peu optimiste là-dessus, parce que certes, on est vraiment très très loin, hein, ça c'est sûr, on est vraiment très loin de notre objectif pour justement limiter le changement climatique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait plus de progrès que les dernières décennies. Quand tu vois dans... En fait, quasiment tous les pays, hormis, je mets pas je parle pas des pays extrêmement pauvres, parce que eux, d'abord, avant de penser à l'écologie, faudrait, tu vois, ils pensent d'abord à comment nourrir la population, tu vois. Donc, hormis ces pays très pauvres, mais même les pays en voie de développement comme la Chine, la Russie, tu vois de plus en plus de différentes choses, des barrages électriques, des éoliennes, enfin, même. Un peu dans notre façon de réfléchir, la Chine, c'est pas du tout. Enfin, certes, c'est l'un des pays qui pollue le plus derrière les États-Unis, mais c'est aussi l'un des pays qui entame en tout cas le plus rapidement sa transition énergétique, tu vois. Elle fait énormément de progrès. Les États-Unis sont un peu à la ramasse là-dessus. En Europe, ça dépend des pays, mais en tout cas, c'est en train d'apparaître et c'est en train d'émerger. Donc,
Mais le problème, c'est ça, en fait.
la question,
C'est
c'est est-ce que
que.
ce sera trop tard? Ça, c'est notre question.
Non,
Mais en tout
même pas, en fait.
cas...
La question, c'est. Enfin, c'est surtout. Est-ce que les gens savent ce qu'ils font? Et en fait, ce qui serait bien avec une organisation mondiale, c'est que tu pourrais avoir des outils qui te permettent de savoir quelle solution est la meilleure. Et là, ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète, c'est que la transition énergétique, c'est magnifique et c'est la porte vers un monde décarboné. Il n'y a aucun monde décarboné. Ça, j'ai déjà dit dans le dernier épisode, donc je vais peut-être pas trop me répéter. Mais toi, vu que tu l'as pas écouté, bien sûr, parce qu'il n'est pas sorti, bah, en fait, le problème, c'est que, et je t'en avais déjà un petit peu parlé en privé, mais la transition énergétique, c'est pas du tout durable en réalité. Les éoliennes, etc., toutes les énergies
Ah
renouvelables
oui, c'est pas
sont pas
100%
du tout
propre, hein.
renouvelables. Si tu veux trouver des énergies renouvelables, et des vraies énergies renouvelables, il faut remonter à il y a de ça plusieurs centaines d'années, quand on utilisait des animaux pour tirer des charrues, etc. Ça, c'est renouvelable parce que c'est une force musculaire. Quand on utilisait l'eau pour faire tourner les pales d'un moulin et moudre le grain, ça c'était renouvelable parce que c'est de l'eau. En fait, à partir du moment où il y a de l'électricité, c'est plus renouvelable. En tout cas, pour l'instant. Parce que ça nécessite forcément des métaux qui sont en quantité limitée dans nos sous-sols et qui sont tout aussi, enfin, qui sont au même titre que les hydrocarbures, qui sont limités et qu'on trouve pas partout, etc. Et surtout dont l'extraction émet des gaz à effet de serre et aussi relâche des produits chimiques dans les fleuves, etc. Donc tout ça pour dire que on nous vante une transition énergétique, un monde vert, un monde décarboné. Si vous avez entendu parler du New Deal vert, enfin je pense c'est un truc dont on va parler dans les prochaines élections américaines d'ailleurs. Le New Deal vert, ça va être un gros challenge, c'est-à-dire c'est théorisé par Jeremy Rifkin qui dit que voilà, il faut passer dans un monde décarboné, il faut accélérer la transition vers l'éolien et le solaire, etc. Ce sera un monde fantastique. Mais en vrai, y a pas de. Enfin. Déjà parce que ça pollue, et aussi parce que c'est monopolisé entièrement par la Chine, qui a quasiment toutes les mines de ces métaux, etc. Et donc, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent dessus, donc on serait totalement dépendant de la Chine. Et justement, tu disais que la Chine essaye de se donner une apparence verte. Bah, déjà, quand tu sais vraiment. Que c'est pas vert du tout, tu sais que c'est déjà un mensonge, mais en plus, enfin, c'est les seuls qui peuvent se permettre de faire ça parce que c'est eux qui ont le monopole sur toutes les ressources qui sont nécessaires. Et en fait, ils se donnent une apparence verte, mais en réalité, la Chine, c'est ceux qui respectent le moins les contraintes environnementales. Et quand tu vois la manière avec laquelle ils extraient leurs minerais et qui créent leurs composants. En réalité, c'est pas du tout vert, c'est même très très peu vert, et c'était ça leur stratégie, c'est prendre le moins coûteux, bien sûr, souvent le moins coûteux, c'est ce qui est le moins respectueux de l'environnement, pour pouvoir rafler tout le marché. Du coup, ils ont raflé tout le marché, et toutes les mines qui étaient plus ou moins respectueuses de l'environnement avant, elles ont été rachetées par les Chinois, et elles sont plus du tout respectueuses de l'environnement maintenant. Donc finalement, ne croyez pas que la Chine, c'est incroyablement vertueux. Ils ont pris une stratégie qui est pas du tout vertueuse, loin de là. Et il faut pas que vous pensiez non plus que les énergies vertes, c'est vraiment vert, ou que ça existe une énergie décarbonée. Toutes les énergies, même le nucléaire, émet du CO2, même si le nucléaire en émet beaucoup moins que les autres.
Ça me fait penser notamment à toutes les entreprises qui se disent vertes et tout, et notamment les voitures électriques, puisqu'on se dit waouh, c'est électrique justement, donc ça pollue pas. Sauf que, comme tu l'as dit, en fait, la création, tous les matériaux que ça nécessite pour la création justement des moteurs de voitures électriques, et ben c'est hyper polluant. Mais moi, sur le long terme, c'est vrai que ça va moins polluer que si tu utilises une voiture normale. Mais sur le court terme, en revanche, ça va être encore plus néfaste pour l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention justement aux entreprises qui se donnent une image verte, et faire gaffe à tout ça. Mais après, c'est vrai que sur le long terme, les voitures électriques, en effet, sont bien plus écologiques.
En vrai, même pas forcément bien plus parce que, en fait, le problème avec les voitures électriques, c'est que on essaye de faire en sorte que ce soit de plus en plus performante, etc., de plus en plus transporter de trucs, de plus en plus gros. Et le problème, c'est que plus tu fais grossir, plus tu augmentes les performances, plus les composants vont être lourds, etc. Et donc, ça va demander de métaux, et donc plus ça va polluer. Et en fait, on arrive à un point où les voitures électriques dernière génération sont aussi polluantes que les voitures diesel, en fait, parce que elles demandent toujours plus de matériaux, etc. Après,
Et aussi un certain
vous n'allez
problème
pas
de
polluer
recyclage.
l'atmosphère de votre pays, mais vous allez polluer un autre. Enfin, au final, ça revient au même, quoi, je veux dire.
Oui, puisque du coup, comme tout le monde est lié.
Bah, tout le monde vit sur la même terre, donc.
Puis le problème aussi du coup des voitures électriques, c'est qu'il y a on a énormément de mal aussi à recycler justement ces matériaux qui sont si utiles
Bien
pour les
sûr,
voitures
ouais.
électriques. Donc
Parce
ça
que.
pose aussi problème.
Et justement, bah, c'est encore lié aux performances. On essaie à chaque fois de créer des métaux qui sont de plus en plus performants, qui peuvent. Voilà, qui font aller plus vite les voitures, par exemple, ou les téléphones, ou n'importe quoi d'autre. Et en fait, ces métaux-là, on les crée en mélangeant plusieurs métaux entre eux. Par exemple, on va prendre, je sais pas, du lithium et je sais pas, du germanium. C'est une plante, on s'en bat les couilles. Mais t'as compris, tu mélanges ces deux trucs, tu mets un autre métal, machin. Enfin, tu fais des alliages qui deviennent de plus en plus compliqués. Et plus ces alliages sont compliqués, et plus c'est dur de les recycler, parce qu'en gros, c'est comme une brioche, par exemple, ou un truc de pain. C'est comme une boule de pain. Et en fait, pour recycler, il faut enlever tous les grains de sel du truc de pain, tu vois. Donc il faut que tu décomposes le truc et que tu arrives à extraire chaque petit grain de sel. Et encore, c'est des grains de sel mélangés à des grains de poivre. Et ensuite, il faut séparer le grain de poivre du grain de sel, tu comprends? Et du coup, plus
Ouais.
tu mélanges le truc, et plus c'est une galère sans nom. Et donc, plus c'est difficile à recycler. Et c'est encore une fois, ça on ne le dit pas trop. Mais là, le recyclage, déjà, c'est un processus qui pollue aussi, parce que il faut utiliser des produits chimiques pour séparer les éléments, etc. Et du coup, forcément, ça, c'est pas magique, hein. C'est pas juste, tiens, je le mets dans cette boîte et je rouvre la boîte et je ressors le truc et il est recyclé. Non, c'est un processus qui pollue moins que de créer un nouveau produit, mais qui pollue quand même. Donc finalement, sur le long terme, c'est pas non plus fou, quoi.
Après, hein, j'ai envie de dire que tout pollue en fait, vraiment tout, absolument tout.
Ouais,
Après, la
tout pollue.
question,
Après,
c'est du
c'est une
coup
question.
à quelle quantité, enfin comment tu veux polluer, si tu veux polluer beaucoup,
Parce que
polluer moins, si
on rappelle
c'est.
qu'on peut absorber les CO2, les plantes, etc., absorbent le CO2, et donc forcément, si on respecte une certaine quantité d'émissions, on est bon, normalement. Ça, il faut le garder en tête. Mais justement, là, on s'est un petit peu éloigné de ce qu'on avait dit, dont on avait parlé au début. On a un peu
Vrai
parlé de
qu'on est
décroissance.
parti bien loin.
On a un peu parlé de décroissance, etc. Et on est arrivé au point où on a compris qu'il fallait prendre des actions au niveau mondial et non pas au niveau national, si on veut changer les choses. Après, bien sûr, on vous encourage tous à prendre des initiatives individuelles aussi, déjà parce que ça a un impact direct sur l'environnement, et en plus parce que ça, en fait, appliquer ces principes simples de réduire sa consommation, etc., bah, en fait, ça vous sensibilise beaucoup plus à ce qui se passe, et genre ça vous conditionne, entre guillemets, à vivre bah déjà de manière plus saine, et en plus à je sais pas comment dire, mais à réaliser que ce qu'on consomme, etc., a un impact. Tu vois, quand tu décides de réduire ton impact, c'est-à-dire que tu réalises que enfin, tu fais moins de mal à la planète que les autres, quoi. Donc c'est une bonne chose. Personnellement, c'est une bonne chose, je pense.
Oui,
Mais
je suis d'accord.
pour revenir justement sur le terrain de l'énergie, parce que là on parle de l'énergie principalement, je vais vous expliquer pourquoi je pense que du coup la conquête spatiale serait un bon moyen de pérenniser en tout cas l'humanité au niveau de ces métaux rares justement. Alors pour vous expliquer ça déjà, il faut comprendre que, enfin, en général les personnes qui parlent de l'environnement, ils ont une vision relativement limitée, je trouve. C'est-à-dire que, en fait, la manière dont ils font le constat, c'est qu'ils disent, bah, on a une terre, et on sait que cette terre, elle est polluée, on sait qu'il y a des ressources limitées. Donc, comment faire pour créer un système qui permet d'être durable? Et en réalité, je pense que c'est un piège de regarder la vision comme d'avoir cette vision, parce que on a prouvé dans l'histoire que le monde, c'était pas seulement la Terre. Le monde, c'est la Terre et c'est partout où on peut aller. Et on est allé dans bien plus d'endroits que la Terre. Donc peut-être que le plan d'action, enfin la carte sur laquelle on peut agir, elle est plus large que simplement la Terre déjà. Et elle devrait en tout cas impliquer tous les endroits qu'on peut explorer, c'est-à-dire les astéroïdes, les planètes, etc. Et en général, on ne prend pas du tout cette vision-là et on parle que de la Terre, ce qui est un petit peu limité, je trouve. Et ensuite, si tu te penches sur cet espace élargi, tu réalises qu'il y a énormément de ressources exploitables. Dans les astéroïdes, il y a énormément, énormément, énormément de métaux rares, de terres rares, de trucs comme ça qu'on peut exploiter et qui permettraient, voilà, de. Ben, c'est carrément une infinité. Là, pour le coup, c'est presque renouvelable parce qu'on a l'univers entier à notre disposition, dans les mesures où la science nous le permet. Et donc, je pense qu'il faudrait toujours considérer que c'est une option, au moins.
Ouais, mais ce qui me gêne dans ce que tu dis, c'est que justement, tu pars du principe que du coup, quoi qu'il arrive, il faut toujours qu'on consomme. Alors que on n'est pas forcément. Enfin, c'est vrai que c'est des matériaux de première nécessité, puisque c'est des matériaux qu'on a besoin pour nos téléphones, pour tous les objets numériques, et on sait comment notre société se développe de plus en plus vers une société numérique. Mais faudrait, pour moi, mon humble
Bien
avis,
sûr, mais vas-y.
faudrait d'abord vraiment stopper absolument le changement climatique et changer totalement notre vision pour essayer de protéger la biodiversité et la Terre en entier. Puis regarde, quand tu parles notamment de plein d'endroits qu'on n'a pas visités, bah c'est totalement vrai sur la Terre. Il y a encore plein, 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 plein d'endroits, notamment les océans, je pense à ça, qu'on n'a pas encore visités et que ben justement, si à la limite on veut absolument fort continuer consommer et à chercher des matériaux, ben à la limite on pourrait peut-être d'abord essayer de trouver, de visiter ces lieux et de les comprendre et de trouver si jamais il n'y a pas des nouveaux matériaux qui pourraient être renouvelables et qui ne seraient pas néfastes d'abord pour la Terre, tu vois.
Bah, moi je pense que la vision de la décroissance, bon, on va dire que t'es pour la décroissance, enfin j'en sais rien, enfin, en tout cas t'es pour changer de vision globalement, et la vision de la conquête de l'espace, c'est pas compatible, je pense. C'est-à-dire que
Oui, bah oui,
soit
je
on
pense
essaye de
aussi.
changer, soit on essaye de changer le monde de A à Z, et on essaye de faire en sorte de, je sais pas par quelle magie, matrixer le cerveau de 8 milliards d'êtres humains, tous différents, tous dans des situations différentes. Tu parlais par exemple des pays pauvres, pour qui l'écologie, c'est pas une priorité, va leur demander de renoncer aux progrès qu'ils viennent de faire pour revenir à des modes moins polluants. Moi, je pense que c'est irréalisable. Et donc, mais soit tu prends cette direction, soit tu prends la
Allô?
direction de. Ouais, tu m'entends ou pas?
Ah oui, désolé, j'ai
Ok.
eu un problème.
Soit tu prends la direction de. En fait, c'est comme si tu étais dans un train et qu'en face de toi il y avait un trou, tu vois. Soit tu essayes de freiner à fond et t'espères t'arrêter avant, soit tu pousses l'accélérateur sa mère et tu sautes par-dessus le trou, tu vois. Et moi je pense qu'on est tellement lancé que c'est trop tard pour freiner maintenant et qu'il faut juste. Il faut sauter par-dessus et je pense que c'est la seule option. Après, bien sûr que ça va être critiqué comme vision parce que. Ça laisse entendre qu'il faut perpétrer la société de consommation, etc. Je pense qu'il faut pas nécessairement perpétrer la société de consommation, mais je pense que malheureusement c'est trop tard pour changer la société de consommation. Et que maintenant il faut faire avec ce qu'on a et qu'il faut être capable de réaliser que c'est que qu'on peut pas changer le monde comme ça et que la seule chose qu'on puisse faire c'est essayer d'orienter cette société de consommation vers un modèle le plus durable possible. Parce que finalement, c'est une question de survie, comme je disais. Donc, il faut juste se demander comment on va faire pour survivre. Et voilà, moi, je pense que déjà, en plus, quand on parle de conquête de l'espace, ça fait beaucoup plus rêver les gens que quand tu leur dis de renoncer à leur ordinateur. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai, mais
C'est-à-dire,
pour
si tu
revenir.
veux créer un effet de mode, justement, comme on disait, tu vas peut-être avoir plus de facilité à créer un effet de mode si tu rends ça cool, entre guillemets. C'est un peu con, mais je veux dire, c'est un peu ça. Tu rends ça cool, parce que la conquête de l'espace, c'est cool. Il faut mettre des guillemets à chaque fois au mot cool. Et comme ça, tu fais rêver les gens et tu leur. Je sais pas. C'est plus facile de s'intéresser à ça, tu vois, du coup.
Mais
Parce
je pense
que
que le
il y a.
problème,
Vas-y.
c'est que, c'est-à-dire que déjà. On arrive certes à aller sur la Lune, mais Mars, qui est pas forcément très loin de nous, on n'arrive toujours pas à y aller, tu vois. Donc je pense que le temps qu'on réussisse ces exploits scientifiques et technologiques, ben on aura déjà eu le temps de détruire au moins 6 fois notre planète, tu vois. Je veux dire, c'est vrai que ça pourrait être une solution, mais peut-être dans 100 ans, peut-être dans 150 ans,
Moi,
peut-être
je
dans
pense pas
200
du tout.
ans. Mais actuellement, on n'a pas cette carte dans notre jeu, tu vois. Et la seule carte qu'on a, en fait, c'est justement changer notre vision. Et je pense que c'est ce seul truc qu'on peut faire maintenant. Et peut-être, ok, développer des différentes fusées et tout, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps.
Mais en vrai, pas du tout. En tout cas, l'exploitation des astéroïdes, par exemple. Les astéroïdes, c'est très près de nous. Hein. On n'a pas trop de difficultés à les atteindre. Et surtout que ce que je suis en train de te parler, c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. C'est qu'il y a des vrais projets qui sont en train d'être menés et qui sont plutôt, enfin, qui sont plutôt bien
Encourageant.
avancés, tu vois. Et il y a, c'est des, y a, je sais plus, Asteroid Mining Resources, un truc comme ça. C'est un truc américain. En collaboration avec la NASA, tout ce que tu veux, qui sérieusement fait des tests. Il y a plusieurs tests qui ont été faits, etc. Et c'est une vraie direction qu'on est déjà en train de prendre. Et quand tu vois les progrès qu'on a fait dans l'industrie spatiale ces dernières années, moi j'ai aucun doute qu'on arrivera à mettre en place des robots qui sont capables de miner, même de raffiner sur place, et ensuite de transporter par capsule, j'en sais rien, ou tu les envoies directement. Moi, j'ai pas de doute que c'est possible scientifiquement. Et puis après, tu peux toujours, si tu décides de prendre cette direction, tu peux justement la prendre à fond et, je sais pas, subventionner, tu peux encourager, tu peux former des ingénieurs, etc. Et tu fais tout pour que ce soit organisé de manière réfléchie et aussi tu investis dedans, quoi. C'est-à-dire que tu fais en sorte qu'il y ait des ressources. Et encore une fois, ça pourrait être le rôle d'une telle organisation, une organisation mondiale, c'est-à-dire à la fois déjà réguler ce qui se passe sur notre planète, parce que c'est pas, je suis d'accord avec toi que c'est pas du jour au lendemain qu'on va commencer à miner des astéroïdes. Donc il faut bien sûr commencer par réguler les activités qu'on fait sur notre propre planète, mais en parallèle, il faut absolument financer ce genre de projet qui nous permettrait de nous libérer de la contrainte principale sur laquelle repose tout le défi écologique, qui est celle de l'espace limité de la Terre. On est dans un espace limité. Et bah, il faut juste élargir ces limites-là. Et ça passe forcément par l'espace. Après, bien sûr qu'on va pas être d'accord sur est-ce que c'est faisable? Moi, la question, c'est que, comme on disait au début, c'est tellement un défi draconien que rien n'est réellement réaliste, en fait. Il faut forcément avoir une vision un peu irréaliste. Parce que le problème avec les politiques, c'est qu'on essaye d'avoir une vision réaliste. Du coup, on dit, oh, on va augmenter de, je sais pas, 5% la part de l'éolien. On va augmenter, alors on va mettre une petite taxe. Je veux dire, ça va rien changer en fait, que ta petite taxe ou ta putain de 5% d'éolien de mes couilles. Il faut vraiment que tu prennes des décisions qui sont à la hauteur du défi. Tu es d'accord avec moi?
Oui, mais justement, moi je suis d'accord avec toi, mais je dis justement que cette décision elle doit plus émaner, mais là on est d'accord sur ce point, justement, encore une fois, on en revient à cette organisation mondiale, tu vois. Mais que si on s'occupe, comme tu dis, du coup de la conquête spatiale, ça ne réglera pas forcément nos problèmes. Ça se trouve, la sixième extinction de masse, ça va totalement avoir lieu, tu vois. Je veux dire, certes, on aura de nouveaux matériaux, mais le changement climatique, ben, il sera toujours là, il sera pas parti, il sera toujours présent dans notre vie, hein.
Oui, bah, après le truc, c'est que la question au final, c'est, on sait que la croissance pollue, on sait que machin. Après, qu'est-ce que tu préfères polluer? Est-ce que tu préfères polluer
L'espace ou
l'espace
notre
ou est-ce que
Terre?
tu préfères polluer la Terre?
Oui,
Au final, c'est
c'est...
ça la question. En sachant que l'espace, il n'y a pas de CO2 qui tienne, hein, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de CO2 qui tienne. Donc tout ce que tu raffines dans l'espace, il n'y a pas de conséquences. Après, il y a des déchets, peut-être, et on sait qu'il y a une ceinture de déchets qui entoure la planète,
Ouais.
etc. C'est dramatique, mais d'un autre côté, personne vit dans l'espace, tu vois. Enfin, qui est-ce que ça va déranger? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ah, bien sûr que c'est pas aussi vertueux qu'on le voudrait, mais c'est mieux que rien. Moi, je pense que c'est mieux que rien. Et si on doit polluer quelque part, autant polluer l'espace plutôt que polluer notre propre planète où il y a des milliards d'êtres vivants qui cohabitent, tu comprends? Et donc, si tu pollues, enfin, si tu décides de délocaliser l'exploitation de ressources dans l'espace, tu décides aussi de délocaliser la pollution qui va avec. Donc, il y a ça, et bien sûr, comme tu dis, et comme on avait dit au début, ça c'est bien sûr un seul et unique aspect du défi écologique, même du défi de l'humanité. Qui est justement la question énergétique, la question des énergies renouvelables. C'est-à-dire que si on prenait cette direction, on aurait potentiellement la clé de cette question des ressources limitées et qui rendrait peut-être les énergies renouvelables, pour le coup, réellement plus renouvelables. C'est-à-dire ça deviendrait peut-être vraiment des énergies renouvelables. Mais bien sûr, c'est loin d'être le seul défi. Par exemple, la déforestation, etc., et le plastique et tout ça, c'est des choses sur les... Mais ça, c'est des choses sur lesquelles, justement, pourrait avoir un moyen de pression une organisation mondiale dont on parle. Et moi, je pense, et on est d'accord là-dessus, et ça, c'est quelque chose dont je suis très content, parce qu'en plus, tu es arrivé à cette conclusion tout seul, genre, j'ai même pas eu à aborder le sujet, et t'as toi-même, et ça, c'est fou, ça veut bien dire que logiquement, c'est la solution, je pense. Et donc, ça, ces autres domaines, ces autres défis, c'est quelque chose sur le que dont pourrait avoir la responsabilité cette organisation de changer les choses. Par exemple, si on change de domaine, là, on a parlé de l'énergie, etc. Mais si on parle du plastique, plastique,
C'est justement ce que j'allais vous parler justement.
c'est pas vrai, mais c'est super. Mais tu sais, hier j'ai regardé une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Kurzgesagt. Si vous parlez anglais, c'est fascinant, vraiment. C'est Kurzgesagt et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Ça parle de l'univers, ça parle de l'homme et c'est vraiment une vraie source d'inspiration. Et là, j'ai regardé une vidéo sur le plastique et il disait que le plastique, c'est comme l'or dans le mythe de Midas. Tu connais le mythe de Midas ou pas?
Pas du tout.
Eh ben, Midas, c'était à l'époque grecque, un roi, il me semble, ou quelque chose, qui avait fait le vœu à Dieu que tout ce qu'il touche se transforme en or.
Ah,
Et
si,
Dieu, je
je m'en
sais pas
souviens.
comment, mais il a accepté. Et du coup, Midas, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Donc au début, c'était fantastique, parce que voilà, c'est devenu l'homme le plus riche du monde. Mais très vite, il s'est rendu compte que même la nourriture qu'il touchait se transformait en or, donc était immangeable. Et par exemple, quand il a voulu embrasser sa fille, elle s'est transformée en or et donc est morte. Et donc finalement, il est devenu l'homme le plus malheureux du monde, à la fois en même temps que l'homme le plus riche. Et finalement, c'est un peu pareil, le plastique. Le plastique, c'est partout, absolument partout. C'est partout, mais au point même que c'est dans des endroits où c'est pas censé être,
Au fond de l'océan.
au fond de l'océan et dans des quantités astronomiques et dans des formes très difficiles à identifier. Les microplastiques, c'est tous ces petits bouts de plastique qui se sont détachés en fait des gros morceaux de plastique et qui polluent l'océan. Mais vraiment, enfin, en fait, c'est tellement imperceptible que tous les poissons en mangent, etc. Et ensuite,
Nous aussi.
ça les défonce. Et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange le poisson qui a mangé le plastique. Et forcément, le plastique, c'est pas fait pour être mangé. Du coup, ça a des complications ensuite sanitaires. Et donc aussi écologique parce que ça tue les animaux. Et du coup, c'est exactement pareil. C'était de l'or. C'était tellement formidable comme matériau. On pouvait en faire tout ce qu'on voulait pour très peu cher. Et finalement, ça s'est répandu comme un poison. Ça s'est répandu au monde entier. Et maintenant, on est confronté à une situation où c'est partout, même dans les océans, et on ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Mais d'un autre côté, ça reste très pratique comme matériau, tu vois. C'est même, en termes d'émissions de CO2 d'ailleurs, un sac en plastique, c'est peut-être moins polluant qu'un sac en coton, tu vois. Parce qu'on nous dit que ça pollue énormément, mais en réalité, ça, l'impact en tout cas a été calculé, et apparemment, il faudrait utiliser son sac en coton, je sais pas combien, 7000 fois, un truc comme ça, pour compenser le nombre de fois qu'il faudrait utiliser un sac en plastique, tu vois.
Mais
Pour te dire.
là, du coup, puisque ce que tu dis, c'est que du coup, peut-être, je savais pas du tout d'ailleurs, mais du coup, les sacs en coton, ça crée plus de CO2. Mais la différence avec le plastique et justement le CO2, c'est que le plastique, il est physique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a de nombreux animaux qui le tuent, enfin, qui le mangent, du coup, et qui meurent. Et ben, ça, c'est physique, on le voit réellement, alors que CO2, non. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le CO2, lui, peut être aspiré par des arbres et tout. Donc, c'est peut-être justement plus rentable si tu limites certaines activités qui n'ont pas besoin, enfin qu'on développe, mais qui émettent trop de CO2, mais qu'on n'en a pas forcément besoin, et que du coup on diminue ça et on investit dans des sacs en coton, par exemple, qui elles émettent du CO2. Mais du coup, si à côté on a une plantation, on développe des arbres ou quoi, enfin on plante des arbres plutôt, qui justement font en sorte d'aspirer le CO2 qui a été émis, ben à ce moment-là, du coup, ça créera un équilibre.
Ouais, c'est ça la question. Bah, il faut essayer de trouver un équilibre, c'est ça, entre l'émission et l'absorption de CO2. Mais après, je sais plus si l'impact écologique prenait en compte justement le fait que ça se transformait en microplastique et ensuite ça se retrouvait. Parce que je sais pas trop comment ils auraient fait pour calculer cet impact-là. Mais c'est vrai que ce que tu dis, si tu gardes ton sac en coton, il va pas se retrouver bien sûr dans les océans, ça c'est sûr. Mais bref, tout ça pour dire que si on essaie de rapprocher cette notion de pollution plastique à la notion de l'organisation mondiale, bah en fait, c'est quoi le problème avec le plastique? C'est que on en a fait beaucoup trop et qu'on n'arrive pas du tout à investir dans les infrastructures nécessaires pour contrôler cette pollution et pour recycler et pour dépolluer les océans. Parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures qui sont pas assez efficaces pour pouvoir dépolluer les océans. Mais la force d'une organisation mondiale, ce serait justement qu'elle pourrait. Bah, elle pourrait subventionner ces projets d'infrastructures à l'échelle mondiale et non pas seulement à l'échelle d'une nation, parce que à l'échelle d'une nation, ils n'ont pas tous les ressources pour investir dans un secteur qui n'est pas lucratif. C'est peut-être un petit peu lucratif le recyclage, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas aussi charmant que développer des industries qui font de l'argent, quoi. Et donc finalement, ce serait la force de cette organisation, ce serait qu'elle pourrait investir dans des projets qui nous permettraient de dépolluer les océans, par exemple, etc., tu vois. Allô?
Oui, je réfléchissais à ce que tu disais. Parce que je réfléchissais encore. Parce que tu as des projets comme ça qui existent, mais c'est jamais soit des échelles régionales, même pas nationales, soit des échelles locales. Donc évidemment, ça a beaucoup, 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 beaucoup moins d'impact que si c'était justement à l'échelle mondiale. Mais du coup, dans ma tête, j'étais en train de faire le lien avec justement le plastique et ce que la conquête spatiale, mais je me disais, justement, avant de faire la conquête spatiale, pour récupérer les différents matériaux, faudrait vraiment qu'on arrive à trouver des solutions à ce genre de problème, parce que même si on fait la conquête spatiale, ben ça résoudra en aucun cas notre problème, par exemple, des plastiques.
Oui, bien sûr, mais après, à chaque problème, sa solution. C'est-à-dire que
Oui.
ça, rien ne nous
Justement, faudrait
empêche.
que c'est pas il n'y a pas une solution en fait. Il faudrait vraiment
Oui, voilà,
que
bien sûr.
il y ait plein de branches et
Exact,
plein
mais
de
mec, c'est
solutions
fou.
diverses pour chaque cas.
Mais c'est fou parce que mais là, tu vois, la réflexion que tu as menée, c'est exactement la réflexion que j'ai menée parce que je me suis intéressé à une telle organisation et genre, je me suis fait un kiff à écrire. Sur quoi est-ce qu'elle pourrait agir, tu vois, sur les défi différents défis. Et j'ai fait exactement ce que tu viens de dire.
Mais
Et
c'est
j'ai
incroyable.
dit, bah, il y aurait une branche énergétique, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait élargir nos limites et aller piocher dans les astéroïdes. Ensuite, il faudrait une branche, je sais pas, plastique. Bah, la branche plastique, elle pourrait, en parallèle, hein, je parle, parce que toi, tu dis avant que, mais je pense en même temps que, parce que tout est imminent, de toute façon, donc il faut tout
Oui,
faire.
c'est vrai, c'est vrai.
C'est pas comme si, enfin, rien ne nous empêche à la fois de mener des projets de dépollution et à la fois de mener des projets d'exploitation d'astéroïdes, tu vois.
Oui.
Et donc, je me suis dit, voilà, une branche dépollution des océans, une branche agriculture, tu vois, mettre des normes agriculture, des normes d'agriculture, imposer l'agriculture régénératrice. On l'a pas abordé, on va pas l'aborder parce qu'on n'a plus le temps.
Oui.
Mais tu vois, à chaque problème, sa solution. Et en fait, tout émanerait d'un organisme qui serait qui aurait les pouvoirs déjà de faire respecter ça et qui aurait la connaissance nécessaire, tu vois. Parce qu'il y a tellement de il y a tellement de désinformation, il y a tellement de d'énergie verte qui sont pas vertes, de trucs comme ça. Et
Il faudrait faire
il faut mettre
ce
tout
que
ça au
tu
clair.
disais, notamment dans le dernier, enfin pour moi du coup, qui était le dernier, c'est comme en Suède, le gouvernement par les experts et non pas le gouvernement par la politique.
Ouais, c'est ça. De toute façon, les politiques, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Enfin, ils peuvent. Enfin, je veux dire, tu peux pas demander justement à des États de régler un problème qui est mondial. Il faut forcément passer par des gens qui savent de quoi ils parlent déjà et qui sont capables de calculer en fait, les différentes, je sais pas, les différentes voies possibles, tu vois. Est-ce
Ouais,
que la voie de la décroissance, elle est envisageable? Est-ce qu'elle serait meilleure que la voie de la conquête spatiale, tu vois? En fait, mettre sur la table toutes les solutions possibles et se demander, bah, c'est très simple, par des maths, tu vois, quelle direction prendre. Tu vois, et le problème, c'est qu'on n'a pas ça. On n'a que des infos, et puis leur contraire, et puis des petites politiques nationales qui vont rien résoudre. Et peut-être que ce qui manque, c'est de mettre les choses au clair et de mener des actions à l'échelle mondiale, comme on disait.
Oui, c'est vrai.
Mais tu vois, on est d'accord finalement.
Tu vois, on a commencé le podcast sur un désaccord et on termine sur...
Mais ouais. Mais finalement, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Tu vois. Ça, après, je pense que ça pose des questions souverainistes, etc. Mais là, enfin, moi, je pense qu'on dépasse ce stade, tu vois. C'est plus une question de c'est une question de survie. Et je veux dire, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, tu as toujours eu des moments où les hommes étaient forcés de collaborer pour surpasser certains défis. Au début, on avait besoin de l'autre, par exemple, pour tuer un mammouth. Tu vas pas tuer un mammouth tout seul, tu vois. Donc, tu es obligé de collaborer avec l'autre. Et donc, tu tues le mammouth, et puis ensuite, tu as besoin de faire une maison. Est-ce que toi, tu n'as peut-être pas les capacités pour construire une maison? Donc, tu collabores avec d'autres personnes pour construire une maison. Et du coup, se forment des communautés. Et puis ensuite, plus tard, on a collaboré pour créer des nations, pour créer des entreprises. Et en fait, on se rend compte que les humains, ils sont efficaces que quand ils collaborent. Ils ne sont pas efficaces quand ils mènent leurs petits trucs de leur côté parce qu'ils sont limités physiquement et parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances nécessaires. Et c'est exactement la même logique que je pense qu'il faudrait appliquer, c'est réunir toutes les connaissances possibles sur ce sujet et aller au-delà des limites qu'on connaît et collaborer de manière globale sur ce sujet-là. Et en fait, si tu vois ça comme ça, c'est juste le dénouement de notre évolution, enfin, c'est la continuité de notre évolution. Étant donné qu'on s'est toujours rassemblés et collaborés pour atteindre des objectifs, là, c'est rien d'autre que la prochaine étape. C'est rien d'autre que on n'a jamais collaboré de manière mondiale, on a collaboré de manière internationale, mais pas de manière mondiale, tu vois. Et ben, je pense que la prochaine étape, c'est ça, c'est collaborer de manière mondiale. C'est que tous ensemble, on arrive à atteindre un objectif. Et là, je pense que vraiment, ce sera l'accomplissement de l'humanité. Si on arrive à mettre de côté nos petits intérêts égoïstes, etc., et qu'on arrive à créer quelque chose qui nous permette de déjà sauver notre cul et sauver le cul de toutes les autres espèces avec qui on vit, je trouve que ça serait formidable. Parce que ça, au-delà même de sauver notre cul, ça voudrait dire qu'on est capable de collaborer tous ensemble et en harmonie. Et ça, je trouve que c'est une preuve d'amour déjà qui est formidable. Et surtout, ça redonnerait espoir en l'humanité à beaucoup de gens, je pense.
Je pense que si ça existait, ça, l'homme n'aurait quasiment plus aucun défi, hein.
C'est ça. En fait, on sait pas, on peut pas trop imaginer les prochains défis. Parce que, tu vois, si y a pas plus tard qu'il y a 200 ans, ils auraient pas imaginé qu'on fasse
Oui, c'est
face
sûr,
à une
c'est
telle
sûr.
situation. Donc finalement, on ne peut pas savoir. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la seule manière, la seule porte de sortie, il y a marqué collaboration au-dessus. Il y a marqué monde. Le problème du monde, eh ben, il faut une solution du monde.
C'est très beau.
C'est très beau. C'est très beau et je pense qu'on peut conclure sur ça. On a trouvé en tout cas, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente alors que de base, on avait des
On
visions un
avait
petit peu
deux
différentes.
idées opposées, hein.
On a toujours des visions différentes, je pense. On a toujours des petits trucs, mais on est d'accord sur le principe le plus important qui est celui de la collaboration, qui est celui de l'harmonie pour réussir à surpasser ce défi. Et ça me fait plaisir. Et surtout que tu l'as déduit de toi-même. Et ça prouve cette force qui est que c'est de la logique en fait. C'est que de la logique. C'est que c'est suivre ce raisonnement-là, tout le monde peut le faire et tout le monde arrivera à la même conclusion.
Totalement.
Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu de m'avoir accompagné. Franchement, c'était un kiff total. J'ai trop aimé
Ouais,
discuter avec
vraiment, c'était
toi.
un grand plaisir.
Ouais, et puis j'espère que vous avez, vous aussi qui écoutez, j'espère que vous avez aussi apprécié. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous aura fait réfléchir sur le monde et sur. Franchement, je trouve ça passionnant de réfléchir sur les solutions pour sauver l'homme. C'est tellement un défi et c'est tellement intéressant et à la fois effrayant, mais tu vois, c'est ça le charme.
Mais
C'est
là, on n'a
que.
que fait effleurer le sujet, hein, parce
Et bien sûr,
qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus
Et il y aura
que...
forcément un autre épisode, de toute façon, sur ce sujet. Parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, donc, vu que c'est mon émission, entre autres. Bah, je vais forcément
Oh
en
là là,
reparler
ne prends pas la grosse tête, hein.
Ah non, mais c'est entre autres parce que c'est aussi Félix, mais de toute façon, on va tous les deux parler des sujets qui nous tiennent à cœur. J'espère qu'en tout cas, celui-là vous aura intéressé. Et on se donne rendez-vous, normalement, si tout va bien, la semaine prochaine pour un prochain podcast sur le thème de je ne sais pas. Et
Ça m'a
merci
permis.
encore, Mathieu, de ta présence qui fut bénéfique. Et merci à tous. Au revoir.
Ben merci à toi surtout.
Et ben, très bien. Remercions-nous. Je me remercie, je te
C'est
remercie.
merveilleux.
C'est merveilleux. Nous ne sommes qu'amour. Bref,
Exactement.
merci à tous et bisous.